Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview, avec ce soir un invité que j'ai reçu dans les studios de Radio Graphite. Il arrive de Lille pour nous parler de ses projets, de ses productions. Olivier, qui officie sous le nom d'Emeric, je vous laisse découvrir cette interview.
Ambient Memory.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Ambient Memory, l'interview. Ce soir, je reçois dans les studios de Radio Graphite un artiste lillois, Olivier. Il officie sous le nom d'Emeric. Il est producteur de musique expérimentale, d'ambiance, de drone, d'électro. Il anime des ateliers avec ses synthés modulaires notamment. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci d'être venu, d'avoir fait le chemin depuis Lille jusqu'à Compiègne pour cette émission d'Ambient Memory. Donc, on va faire ta connaissance durant cette heure, donc petite interview. Et ensuite, tu nous as préparé avec tes synthés modulaires un petit live. Donc, on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, Olivier, bientôt la cinquantaine, dont 30 ans de synthé. Voilà, donc j'ai commencé à la fin de l'adolescence et j'y suis toujours. Alors je suis passé par tous les types de musique contenant d'électronique, dans mes goûts perso et dans les réalisations. En ce moment, le parcours, c'est du modulaire et de l'ambiante.
Tu as commencé très jeune la musique. Comment est-ce que tu t'es vraiment intéressé à l'ambiante? Quel a été vraiment le déclic?
Alors, le déclic, il est assez vieux. Moi, j'ai commencé la musique très jeune parce que j'ai eu un clavier comme cadeau d'anniversaire à 5 ans, un Farfisa Matador AR, pour ceux qui connaissent, ils iront chercher. Et donc, tout de suite, voilà, les claviers, c'était un petit truc qui m'intéressait. Ensuite, j'ai eu un parcours musical très, très classique avec le conservatoire. Analyse harmonique, écriture et tout ça. Et en fait, le contact avec l'ambiance, c'est des questionnements sur la qualité du son dans des groupes de rock pas du tout ambiante, c'est-à-dire YouTube, pour ne pas le nommer, avec 2-3 morceaux où je me suis dit, mais comment ils font ce son-là? Donc grâce à un truc qui n'existe plus beaucoup, c'est-à-dire des jaquettes de CD et de vinyle, j'ai trouvé des noms. Dedans, j'ai trouvé Brian Eno. Et j'ai suivi le fil, et puis voilà, médiathèque, on emprunte les disques, puis on en écoute un, on écoute 10, on trouve d'autres producteurs, on tire le fil, et puis voilà quoi.
D'accord, donc tu es un musicien, enfin que tu as suivi, comme tu disais, un parcours classique, solfège, instrument. Concernant aussi, du coup, l'ambiance, donc après tu es venu assez rapidement au modulaire, j'imagine, enfin après peut-être un long moment, un cheminement qui t'est propre. Et justement, est-ce que tu es autodidacte au niveau du domptage, si je puis dire, au niveau des modulaires, ou tu as aussi pris des cours de musique pour pouvoir dompter ces instruments?
Alors en fait, je suis autodidacte pour la partie maîtrise de l'instrument, mais en fait pour la partie technique, pas vraiment, parce que c'est mon parcours universitaire. Donc en gros, je sais à peu près comment c'est fabriqué dedans. Je sais comment fabriquer du son, de quoi c'est composé, ce qui facilite beaucoup le travail avec le modulaire, puisqu'on peut prévoir à l'avance, définir quel chemin on va faire suivre le son et les modulations pour essayer d'obtenir ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des surprises, des déceptions et parfois des heureuses surprises. Et donc voilà, c'est un faux parcours d'autodidacte. Mais finalement, le modulaire, j'y suis arrivé assez tard. Pour une raison simple, c'est les finances. Parce que ça coûte assez cher, donc il faut un peu de temps pour rentrer dedans, voilà. Et puis surtout, je suis d'abord parti vers les synthés classiques, claviers. Et donc j'ai d'abord fait de la musique avec ça, et puis il y a eu des limitations. Et par recherche, je me suis dit, tiens, c'est peut-être du modulaire qu'il me faudrait, et donc j'ai mis la main dedans.
D'accord, et tu parles de parcours universitaire, quel est ton parcours justement? ce qui, du coup, t'a aidé pour tout ce qui est musical, tout ce qui est modulaire.
Alors, moi, j'ai fait des études de physique, avec un peu d'acoustique. Donc, voilà, l'électronique, je maîtrise. L'acoustique, je maîtrisais, voilà, parce qu'avec l'âge, j'en oublie. Hein. Mais l'essentiel est là. Donc, voilà, le parcours du son, je l'ai. Les effets sonores, je sais à peu près comment c'est fabriqué, donc je peux composer en pensant aux effets que je vais utiliser et au type de son que je vais utiliser. Du coup, ça facilite la chose, quand même. Plutôt que de partir comme font beaucoup, qui travaillent au laptop uniquement, ils prennent des presets, et puis finalement, le parcours du son, bah, c'est un peu magique, ça sort de la boîte, et c'est très bien, hein, y a des choses extraordinaires qui sont faites comme ça. Mais moi, je pars plutôt du parcours physique et à la fin, j'ai le son et à partir du son, je compose.
Et tu parlais aussi donc d'artistes qui t'ont peut-être inspiré. Tout à l'heure, tu me parlais de Brian Eno, donc c'est un petit peu le père spirituel, le père de l'ambiante. Mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'inspirent justement dans ce que tu fais, dans les productions que tu mets en œuvre ?
Alors, les autres artistes, en fait, j'ai des goûts personnels très éclectiques et par mon parcours de musicien, comme ma formation est classique au démarrage, mes références, elles sont très classiques. Donc en gros, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique composée classique des années 20 aux années 50. Donc on passe par Ravel, Stravinsky, Villa-Lobos et compagnie. De ça, je suis venu à écouter les minimalistes américains, donc Terry Riley, Reich, Glass. Et donc de là, évidemment, on glisse assez rapidement vers des possibilités de musique ambiante, puisque c'est fortement structuré, en l'étant moins en apparence, donc il y a des liens. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de références de musiciens ambiants, c'est plutôt, je pioche dans les grands compositeurs du XXe siècle.
C'est ce qui t'a amené vraiment, est-ce que ça t'a amené justement à mettre en place ton projet Amérique, d'ailleurs, est-ce que ça a une signification, ton nom de scène, ton nom d'artiste ?
Alors, il fallait que je trouve un nom pour mon projet ambiante. On était en plein confinement et j'ai pris une anagramme du prénom de ma fille. Voilà, ça tombait bien. Voilà, j'ai pris ça. Et puis, comme mes grandes références de compositeurs, c'est plutôt les minimalistes américains, bon, voilà, ça se rejoint bien.
Oui, voilà, en fait, ça conclut bien, enfin, le nom d'Amérique. Et justement, pour ton projet, comment tu travailles ? Bon, bien sûr, tu travailles avec des modulaires. Est-ce que tu pars avec une idée précise ? Généralement, quand tu décides de créer un morceau, est-ce que tu as déjà une idée de base ?
Je pars du son, des structures et des textures sonores, et je travaille pas uniquement avec les modulaires. En fait, j'ai beaucoup de captations sonores. Je fais beaucoup de presets de sons sur les synthés physiques que j'ai à la maison. Et quand j'ai une masse de nouveaux sons, j'organise des sessions de live tout seul dans le studio. Voilà, donc j'enregistre tout ce qui sort des machines, je joue à gauche, à droite. Alors ça peut durer un quart d'heure comme ça peut durer très 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 longtemps. Ensuite, je réécoute. Et quand je trouve qu'il y a des sons qui se correspondent bien, qui veulent dire quelque chose, je les sélectionne et à partir de ça, j'essaie de composer. Et ces sons, je les repasse parce qu'il ne faut pas nier que l'ordinateur a apporté des techniques sonores très avancées. Donc je passe là-dedans, je passe dans les modulaires, je passe de l'un à l'autre et j'essaie de composer avec ça. Donc les modulaires, c'est un des outils et ça permet une restitution assez fidèle de ce que je veux faire. Voilà.
D'accord, c'est une espèce de découpage d'une session qui peut être très longue. Et donc, du coup, tu prends les meilleurs morceaux. Et donc, généralement, ça peut faire des morceaux très longs, avec tous ces découpages.
Voilà, ça peut être très long. Le dernier album que j'ai édité, il y a un morceau quasiment d'une demi-heure. Mais finalement, c'est des sessions qui durent 3-4 heures. Et puis dedans, j'ai repéré ce qui était intéressant. J'ai un peu redécoupé. J'ai réenregistré des parties qui me convenaient moins. Pour arriver à, voilà, il y a un morceau d'une demi-heure, il y en a un de 5 minutes, voilà, il y a pas de cadre, c'est en fonction de ce qui vient, en fonction des sons, des textures, de ce que j'aime bien écouter, c'est quand même la première des choses. Et ensuite, j'essaie de voir ce que je suis capable de jouer en direct sur les machines, parce que clairement, il y a parfois des morceaux où la texture est tellement complexe que ça va être impossible de le rejouer, en tout cas seul, avec des machines simples sur une scène.
Après, bon, ça te permet bien sûr de créer des morceaux, donc tu as fait aussi différents albums. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? C'est-à-dire que vraiment, tu es vraiment dans la création de dire voilà, je vais faire des albums pour faire connaître, faire écouter ma musique. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Ou vraiment ton travail premier, c'est de créer pour le plaisir, mais aussi pour le plaisir des autres? Mais aussi, du coup, pour garder une trace, d'avoir justement un support, un album, que ce soit un support CD, pourquoi pas vinyle, ou rester sur du numérique. Est-ce que c'est quelque chose, pour toi, qui est assez important de produire des albums?
Alors oui, évidemment, si un support final terminé, qui est cohérent, qui présente un ensemble de plusieurs minutes ou dizaines de minutes, évidemment, c'est un des objectifs. Mais mon travail musical, qui est un hobby, il est surtout orienté d'abord sur la recherche de nouveaux sons. Voilà. Donc, je suis un peu l'ermite dans la grotte. Hein. Je cherche des sons, j'en enregistre, je les étire, je les découpe, je les passe dans le modulaire, je les passe dans un autre sampler. Voilà. Et si à la fin, j'obtiens un morceau qui me satisfait, il s'additionne aux autres. Et quand j'ai un ensemble qui me semble cohérent, ça aboutit à un album. Alors je pense que potentiellement j'ai des centaines d'heures d'enregistrement, mais tout ne me satisfait pas. Donc voilà, de temps en temps, je me dis, tiens, il y a 3-4 morceaux qui ont une cohérence, qui portent un message. Donc là, peut-être que ça peut valoir un album. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu produis ça toi-même ou tu es aussi à la recherche, par exemple, d'un label qui pourrait produire ton album ou pas du tout?
Alors, je suis en totale autoproduction. Alors oui, il faudrait peut-être chercher un label. J'en ai eu avant sur d'autres projets. Là, sincèrement, le temps que je consacre à la musique, je ne veux pas l'épuiser dans la recherche de labels, parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers, je pense, et que je préfère faire du son. Voilà. Donc, quand je tombe sur quelqu'un qui apprécie et qui me dit « super », j'ai bien aimé ce morceau-là, heureux, voilà. Si parfois j'ai des propositions pour faire des petites prestations, heureux aussi, tout va bien. Quelqu'un a apprécié, je peux le jouer devant du monde. Et pour l'instant, ça me suffit très bien.
Et justement, dans tes albums, tu as aussi pu proposer un morceau dans une... C'est une compilation, je crois, Communal Musique, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Du coup, est-ce que ça a été un projet... t'a proposé ou c'est toi qui a proposé tes services justement pour cette compilation? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, c'est venu d'un groupe Facebook, je crois, que je ne pratique pas beaucoup comme média, qui à un moment proposait et propose toujours d'ailleurs des travaux, on va dire, en commun. Et le principe est assez sympathique puisque tout le monde amène des sons. Alors souvent sous forme de samples, mais parfois des sons synthétiques. Et chacun doit composer avec tout ou partie de ses sons, un morceau dans le style ambiante, parce que c'est quand même, le label est orienté là-dessus, les propose à la personne qui gère ça, puis il sort des compilations. Je sais qu'il y a eu des sorties qui ont abouti sur du vinyle. Pour l'instant, j'en ai proposé deux de morceaux qui sont sur Bandcamp, voilà. Et c'est un exercice très intéressant parce qu'on ne maîtrise pas les sons des autres et il faut faire avec, on découvre une nouvelle matière sonore et là le dernier que j'ai envoyé il n'y a pas très longtemps, c'était vraiment curieux parce qu'il y avait les classiques, sons d'animaux, mais aussi des sons vraiment de la vie quotidienne qui rejoignent la musique concrète. D'accord, un type Pierre-Henri Schaeffer et compagnie. Voilà.
D'accord, du field recording peut-être, ce genre de choses.
Exactement, voilà, du train. La première compile, il y avait un son du téléphérique de Grenoble.
Ouais, c'est assez précis.
Et très intéressant, parce qu'en fait, je pense qu'il était filmé depuis l'intérieur de la cabine, et du coup, ça... Enfin, je l'ai bien utilisé. Voilà.
D'accord, ok. Bon, voilà. C'est bon ça. Après, tu as produit d'autres choses. Donc, Borelians EP en 2011. Tu me dis si j'écorche les noms ou si okay. Je... Borelians
2021.
Ouais. Pourquoi j'ai mis 2011, je ne sais pas. Après, tu as fait aussi un CD en édition limitée en octobre 2020.
Voilà.
Alors, je ne sais pas dans quel ordre.
J'ai d'abord sorti l'album Intégration, voilà, en série limitée parce que c'est du fait main, voilà, la petite pochette carton fait à la maison, avec une œuvre d'une copine là qui a fait un beau tableau, qui est en fait une vision réinterprétée depuis la terrasse du Whitney Museum à New York.
Une vision assez urbaine avec voilà, des couleurs.
Voilà, c'est très urbain, c'est beaucoup de fenêtres répétitives et bon, ça collait bien avec l'esprit de la musique que j'écoute. Voilà, après, bah oui, j'ai sorti des petits EP parce que sur 3-4 morceaux, il y avait une cohérence et qu'il faut mettre le titre EP ou album ou single si on veut être sur les plateformes de streaming, alors que ça reste un objet musical, hein, son nom n'est pas très important. Voilà.
Voilà, après, il y a eu le dernier en date, Dreamcatchers.
Voilà. L'attrape-rêve. Ce dernier, c'est trois morceaux entièrement modulaires, issus de sessions live tout seul à la maison, dans le studio. Et puis voilà, il y avait des moments de l'un à l'autre qui étaient cohérents, parce que forcément, en fait, quand on passe par du modulaire, une fois qu'on a patché et qu'on a choisi les modules qu'on met dans son rack, bah, on est dans un goulot d'étranglement de son, parce qu'on a choisi ces sons-là. Et donc, quand on fait plusieurs sessions live, ben, on se retrouve avec des couleurs qui se ressemblent. Donc, la cohérence apparaît. Donc, voilà, il y a trois morceaux. Et je me suis dit, bon, voilà, là, ça fait un objet musical. Il faut mettre les trois morceaux ensemble et ça fera un album. Voilà.
Oui, donc, oui, la particularité, du coup, pour le modulaire, pour faire une petite parenthèse, c'est qu'il y a une programmation. Si tu dois reprogrammer, il faut tout débrancher pour rebrancher. En gros, pour ceux qui ne savent pas. C'est peut-être un peu simpliste.
Non, c'est exactement ça. Le modulaire, c'est chaque module, d'où son nom, représente une fonction. Donc, soit c'est une fonction qui génère des ondes sonores, sous forme électrique évidemment, soit c'est une fonction qui génère des fonctions mathématiques qui vont moduler le son. Et donc, pour fabriquer un instrument, bah, il faut des ondes sonores, il faut de la modulation. Donc, une fois qu'on a choisi ces modules et qu'on les a patchés, alors patcher, c'est mettre des fils électriques, soit qui véhiculent le son, soit qui véhiculent la modulation, bah, ce patch, il définit une texture sonore qui est modulable, on joue avec, mais elle est quand même définie par les câbles. Et effectivement, quand on décable tout, ben, si on n'a pas de mémoire, ou si on n'a pas pris de photos, ou si on n'a pas pris son petit carnet où on a tout noté, ben, ça va vite être oublié. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'enregistre tout ce que je fais, et par des notes sur du papier, mais surtout, j'enregistre la matière sonore en permanence.
Et c'est comme tu disais tout à l'heure, du coup, tu as une banque de données musicales qui est assez grande et du coup tu peux piocher dedans pour procréer des morceaux. D'accord. Est-ce que tu as d'autres albums de prévu ou peut-être d'être intégré dans des compilations ? Enfin, en tout cas, si tu peux nous en parler, si c'est pas top secret.
Il n'y a pas de top secret. Alors, les albums, bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça dépend du moment. C'est quand j'ai des morceaux qui ont l'air de bien vivre ensemble, je me dis, bah, là, voilà... Donc peut-être que ça sera demain matin ou peut-être dans 2 ans, voilà, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de pression là-dessus. Les projets, j'ai proposé un nouveau morceau sur le groupe AEMC, le net label. Bon, donc je ne sais pas s'il sera écouté, reçu, validé et intégré dans une sortie. Là, depuis quelques mois, je travaille avec des artistes de la condition publique à Roubaix. Donc il y a un collectif d'artistes multi-activités, des graphistes, des peintres, des photographes, des musiciens. Et donc il y a un groupe de musiciens qui s'appelle Otium, dans lequel je suis rentré, parce qu'il leur manquait une petite composante apparemment ambiante et qu'ils appréciaient ce que je faisais. Donc voilà, ils m'ont invité cordialement et j'en suis très heureux. Donc c'est des musiciens qui se regroupent pour faire de la musique, donc ça c'est pas très original, mais surtout pour proposer une formation aux gens qui viennent, qui veulent soit se perfectionner, soit apprendre, soit découvrir. Donc ils ont un petit laboratoire avec des stations de travail audio-numérique, voilà, où il y a du monde qui passe, c'est un peu informel, ils font des choses à l'extérieur, tout ça, et donc moi j'amène la petite composante ambiante, voilà, et les modulaires.
D'accord, donc c'est un petit peu la deuxième corde à ton arc, si je puis dire, de faire partie de ces groupes de, je sais pas si on peut dire, de recherche pour, voilà, pour ces créations musicales. Est-ce que tu en fais régulièrement ?
Alors, quand l'emploi du temps professionnel et familial le permet, oui, je le fais, puisque c'est un hobby qui prend du temps. Donc oui, oui, puis à la demande, quand il y a un projet qui arrive, voilà, on s'y met. Au mois d'octobre, il y a eu le festival Nexum à Lille. Donc c'était un festival de musique électronique sur un week-end, qui était plutôt une convention. D'ailleurs, c'était présenté comme ça, il y avait des tables rondes. Et là, on a animé pendant deux jours des jams électro. Donc sur le modèle des jams de jazz, sauf que c'est inhabituel en électro, parce que souvent l'électro, c'est quand même quelqu'un tout seul qui a ses machines, son laptop, et puis il a préparé son set et joue tout seul. Et là, c'était on prend à revers cette habitude, c'est on se met à plusieurs, on s'écoute et on fait des propositions collectives. Donc ça a été plus ou moins réussi. Je pense que c'était très réussi, parce qu'on s'est tous écoutés et puis on a eu tous envie à la fin de remettre ça. Donc on a fixé des dates régulières, quasiment une fois par mois jusqu'au mois de juin, là, pour essayer de faire venir du monde et de jouer ensemble.
D'accord. Voilà. Okay. Il y en a peut-être une sur ce mois de décembre, justement, de prévu.
Alors, il y en a sûrement une. Moi, les dates, c'est pas mon truc. Donc, souvent, c'est le vendredi soir, voilà. C'est parce que c'est plus simple. Si on finit tard, voilà, y a moins de gens qui travaillent le samedi que les autres jours. Même s'il y en a plein qui travaillent le week-end, mais un peu moins. Donc voilà, c'est un peu plus ouvert ce jour-là. Et donc voilà, on pose des jams. Alors. Je ne vais pas vous dire la date parce que je ne la connais pas. Je pense que c'est au début du mois, mais dans mes souvenirs. Et en fait, il suffit de chercher hein, conditions publiques, jam session, Autium, et on trouve, et puis on regarde. Alors, on fixe des esthétiques, parce qu'effectivement, en musique électronique, il y a beaucoup d'esthétiques. Donc, c'est quand même mieux si les gens qui viennent jammer sont dans une esthétique qui leur plaît, parce que sinon, celui qui vient faire de la dub et qui découvre que c'est de l'ambiance, oui. Voilà, et vice-versa. Donc, on fixe quelques esthétiques. Et donc, moi, dans ce groupe-là, j'amène l'esthétique ambiante. Mais je ne suis pas contre une petite bassline de temps en temps pour mettre...
Bien sûr. Voilà. Bon, je pense qu'après, pour les dates, on peut retrouver ça sur... On en parlera peut-être un peu après sur, voilà, sur les réseaux sociaux. Enfin, tu m'as dit que tu n'étais pas très actif, mais Instagram notamment, peut-être.
Oui, oui.
Des informations. C'est visible. On verra tout à l'heure. D'accord. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont publiques ? Vous faites ça vraiment juste entre artistes ? Ça reste en petit comité ou ça peut être public, ce genre de session de jam ?
Alors, c'est public dans le sens où les locaux sont plutôt ouverts. Hein. C'est pas Fort Knox. Mais ben, on est limité par le nombre de postes qui sont disponibles pour jouer. On est limité par les jauges de sécurité qui sont pas très grandes. C'est des pièces à unique sortie, donc forcément, on peut pas être très nombreux. Mais on trouve des espaces de restitution, en fait. Donc souvent, à la fin, on propose une restitution, puis on a quelques personnes qui viennent pour écouter quelques minutes du travail collectif.
Après, est-ce que tu n'es pas très actif, tu disais, par rapport aux réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut te retrouver malgré tout ? J'ai parlé d'Instagram tout à l'heure.
Si on cherche Amérique, on trouve sur Instagram, sur Facebook. Mais bon, voilà, je ne fais pas partie des ultra-actifs, des hyper-actifs des réseaux, parce que ça prend du temps et que le temps, je le consacre à faire de la musique plutôt qu'à en parler. Enfin,
ça
me plaît plus, quoi. Voilà.
Tout à fait. Ou après, si on veut vraiment se procurer tes productions aussi, peut-être sur des sites comme Bandcamp
ce que je sors, quand je finalise un projet et que j'estime, alors c'est tout seul, que ça vaut le coup d'appeler ça un album, effectivement, je le mets sur toutes les plateformes de streaming parce que désormais c'est la vie de la musique de passer par ces plateformes. C'est sur Bandcamp également, enfin voilà, ça c'est assez simple à trouver, mais sans en faire une publicité débordante parce que j'ai pas vraiment le temps.
Mais justement, est-ce que ces dernières semaines tu as eu des événements que tu as appréciés, que ce soit vraiment des événements publics ou des choses un peu plus solo, un peu plus dans l'esprit jam, comme tu dis, les jam sessions.
Oui, alors voilà, il y a les jams mensuels. Dans les projets que je mène, comme j'ai une formation classique, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de musiciens dits classiques, et notamment dans le milieu du jazz, parce que j'en ai fait un petit peu, je continue. Et donc là, avec un camarade, Julien Marga, qui est guitariste de jazz professionnel, qui a sorti 4, 5, 6 albums, je ne sais plus exactement, on essaie de former un groupe entre l'ambiante et la guitare jazz. Donc, essayer de trouver une frontière commune de composition, de texture. Donc, on a fait une petite session de travail au mois d'octobre. On travaille beaucoup à distance parce qu'il habite à Bruxelles. Donc, on s'échange des morceaux, on rajoute un truc. Il met une ligne de guitare, il me présente une harmonie. Moi, je tire un peu dessus pour fabriquer des sons. Et on espère que ça aboutira à un objet disque un jour. Voilà. Mais c'est compliqué parce que ce sont deux milieux musicaux assez éloignés. Voilà, puisque on travaille beaucoup sur les textures et moins sur la mélodie en ambiante. En jazz, y a le triptyque harmonie, mélodie, rythme. Alors le rythme en ambiante, il y en a guère, ou quand il y en a, il est quand même très discret. Les mélodies, il y en a, mais elles sont quand même éthérées. Il reste l'harmonie, voilà. Donc on essaie de voir là-dedans ce qu'on peut faire. Donc on s'enregistre, on fait des sessions à deux, et puis on écoute, et puis on voit ce qui peut en sortir. Pour l'instant, ce qu'il en sort, c'est que c'est très agréable de travailler sur ce projet. Et il y a des choses bien, pour l'instant. Donc on espère qu'un jour...
Et vous produire, peut-être, ça sera un peu difficile, parce qu'il y aura peut-être un gros travail de préparation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément d'improvisation si vous devez faire un live devant un public, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait aboutir,
Ah oui, parce que justement, le fait de travailler avec un guitariste de jazz, c'est, l'objectif, c'est la scène. Clairement, il y a l'objectif du disque, abouti, fini, produit, avec un son léché, voilà. Mais on veut le jouer sur scène. Donc c'est intéressant parce que ça contraint la fabrication des textures sonores pour qu'elles soient reproductibles sur scène, qu'elles le soient assez simplement sans avoir à amener un semi-remorque de matériel. Et voilà, donc ça, c'est une contrainte dans la composition. Et en même temps, comme c'est une contrainte, ça oblige à réfléchir. Et quand on réfléchit, on est un peu plus intelligent. Et donc, on produit plus de choses. Donc voilà, donc là, c'est en cours. On enregistre des choses. On a des bouts de morceaux, des choses presque abouties, où il faut encore travailler un petit peu. Et donc, c'est de l'ambiante avec de la guitare jazz. Donc, je pense que c'est assez original. Il y a peu de références là-dedans. Et on espère qu'on aboutira à quelque chose de bien, avec un support, des concerts et beaucoup de musique.
Bien sûr, avec un minimum de machines.
Voilà,
sans
venir avec un semi-remorque. Oui. Voilà.
Comment va s'articuler ton live ?
Alors le live, il va commencer par l'exposition des sons de base, des textures de base. Donc ça commence assez souvent par des sons assez courts, voilà. Et ensuite, je les travaille pour leur redonner un peu de corps. Je les passe dans des effets qui permettent d'augmenter souvent les harmonies et puis le côté temporel des sons, qui sont assez courts au démarrage dans ce que j'ai patché. C'est des sons presque percussifs. Et avec des percussions, quand on les étire, quand on les traite correctement, elles deviennent des notes. Et puis quand on ajoute des notes, on fabrique des harmonies et des mélodies. Le cœur du système, là, c'est un générateur de hasard programmé. Alors, dit comme ça, c'est un peu curieux.
C'est bien, c'est un peu l'originalité de ton live.
Voilà, c'est un objet qui prend une horloge externe. Donc, il y a un temps, un tempo qui est défini, qui ne bougera pas pendant tout le live. Et autour de ce tempo... Eh bien, la machine, une fois qu'elle est programmée, elle propose des variations. Donc parfois, les sons sortent avant le temps, parfois ils sortent après, parfois ils sortent pas du tout, on les attend longtemps, puis ils finissent par apparaître. Donc c'est du hasard organisé.
D'accord. Est-ce que oui, c'est des latences dues à la machine ou,
c'est vraiment... Ah non, c'est pas de la latence, c'est, C'est programmé, voilà, du hasard programmé. Programmé, c'est-à-dire qu'on peut s'éloigner plus ou moins du tempo d'origine. Et ce qui peut être surprenant à l'écoute, parce qu'on est très habitué dans la musique populaire occidentale à, en gros, le pied qui tape le temps et puis il n'y a pas de surprise, bah là, il n'y en a pas. Ce qui veut dire que, si on voulait faire une image un peu cosmologique, c'est si on est très très loin, on va voir la ligne de temps, puis quand on s'approche, on la voit pas parce qu'on est le nez dedans, puis il y a trop de variations, voilà.
Est-ce qu'il y a des espèces de contretemps peut-être ? On peut parler de ça ?
Ouais, des contretemps, mais alors le contretemps, c'est une signification en classique qui fait que c'est un contretemps qui est quand même mesuré, voilà. D'accord. Alors que là, c'est vraiment du hasard. Mais quand on s'éloigne, on voit qu'il y a une structure et que finalement le fil du temps et du tempo, il est là, quoi. D'accord. Et ça sautille autour.
On va pouvoir découvrir ça d'ici quelques instants, le temps de te préparer derrière tes machines.
Voilà, merci.
Bon, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, on va découvrir donc ton live d'ici quelques secondes.
Ambiante Memory sur Radio Graphite.
Amérique nous propose un live de son morceau Dreamcatcher, joué en live dans les studios de Radio Graphite. Puis nous aurons le plaisir d'écouter Fermi Paradox et Palindrome, extrait de l'album Intégration. Un beau moment de relaxation.
Ambiante Memory sur Radio Graphite. Thank you.
Thank you.
Ambiante Memory sur Radio Graphite.
Thank you.
ambiante. Memory.
L'émission se termine. Retrouvez le podcast dès demain, ainsi que toutes les informations concernant Amérique. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.
Ambiante. Memory. Sur Radio Graphite.